responsabilité parentale, qui doit faire quoi pour l'éducation des enfants. Madame, Monsieur, bienvenue à l'écoute de votre émission Miroir de la Cité. Pour cette édition, Miroir de la Cité s'intéresse à la responsabilité parentale dans la vie d'un enfant. Bien entendu, les parents en sont des paradigmes éminents et leurs responsabilités évoluent selon l'âge des enfants et les moments de l'éducation. Une thématique qui va faire l'objet des débats tout au long de cette émission. Notre invité viendra en deuxième partie avec plus de précision. Karingo Pepga est assistante principale des affaires sociales. Comme on le disait en titre, la responsabilité parentale doit être assurée par les parents pour une éducation réussie des enfants. Nous avons interrogé quelques jeunes de Maroua sur la question de la responsabilité des parents dans l'éducation des enfants. Nous les écoutons et on se retrouve dans un court instant.
De mon point de vue, je pense que la responsabilité parentale incombe à l'homme, puisque nous sommes dans une société qui prône plus le patriarcat. Ça veut dire que l'héritage et les enfants appartiennent souvent à la famille du mari. Donc je pense que la responsabilité incombe plus à l'homme dans ce sens.
Et bien évidemment, c'est quelle question encore ? La responsabilité revient à l'homme, puisque c'est l'homme qui est allé doter la femme. Quelle question, mon frère? Bon, moi, c'est ce que je dis. Quand je suis allé doter la femme, c'est moi le seul coq dans la maison. C'est moi qui donne les ordres et la femme doit me suivre. Ok, là où elle refuse, moi, je cherche une autre femme. Moi, ça, c'est clair de mon point de vue. Uniquement à l'homme et la femme doit suivre les pas de son mari.
Oui, pour moi, la responsabilité parentale sur l'enfant dépend des deux parents. 50-50%. Oui, ça dépend des deux parents parce que nous engageons devant Dieu et devant les hommes ensemble. Et le papa dit, papa ne fait pas l'enfant seul, maman ne fait pas l'enfant seul. Donc ça dépend émotionnellement des deux parents, 50-50%.
Ok, en ce qui me concerne, la responsabilité parentale incombe les deux parents. Et chaque parent a sa place dans l'éducation et l'épanouissement de l'enfant. La maman a sa place, elle commence à éduquer l'enfant à partir du bas âge et elle a des valeurs qu'elle doit donner à l'enfant. Et le papa aussi de son côté a sa place. Donc on ne peut pas dissocier en parlant de la responsabilité parentale et éloigner la responsabilité de la mère de l'autre parent. Donc les deux parents sont très importants pour l'enfant.
Auditeur, auditrice de la radio Rosséré, vous écoutez Miroir de la Cité. Comme annoncé en titre, nous sommes en compagnie de Karingo Pepga, assistante principale des affaires sociales. Karingo Pepga, bienvenue dans le studio de radio Rosséré.
Merci.
Au-delà de tout ce qui précède, vous êtes la personne la mieux indiquée pour nous édifier sur la question de la responsabilité parentale. Dites-nous, qu'entendez-vous par responsabilité parentale?
Bon, nous pouvons comprendre par responsabilité parentale l'ensemble des devoirs qu'ont les parents vis-à-vis de leur enfant pour que celui-ci puisse grandir dans de très bonnes conditions et être un citoyen modèle dans l'avenir.
Ok. Nous allons nous appesantir sur le rôle de tout un chacun. D'abord sur le plan civique et moral, qui doit transmettre les civilités de base à l'enfant?
Sur le plan civique, et c'est le parent qui est le premier responsable au niveau familial, puisque c'est la cellule familiale qui est le premier milieu de socialisation de l'enfant. Et c'est pourquoi, dès son plus jeune âge, déjà quand l'enfant peut écouter, communiquer, on commence déjà à lui inculquer certaines valeurs, certains aspects civiques, tels on doit saluer les gens. Et quand on vient, on ne salue pas les aînés, on ne tend pas la main à un aîné, on respecte quand un aîné parle, on écoute ce que l'aîné dit, et avec les frères, on ne bagarre pas. Tous ces aspects, l'enfant commence à les assimiler et à partir de la petite cellule familiale avant que ça ne s'agrandisse pour arriver au niveau communautaire. Donc, c'est le parent qui est le premier responsable, c'est à lui de pouvoir apprendre à l'enfant tout ce qu'il peut apporter sur le plan civique et respecte peut-être certaines règles sociales. Comment est-ce que l'enfant peut se comporter? Tel comportement est mauvais et tel comportement est bien. Et à chaque fois, cet enfant va les assimiler. C'est là où on pourra parler de la socialisation. Ça commence déjà à partir au sein de la famille.
Karine, si pour ce volet, les deux parents sont impliqués, qui est responsable de l'éducation sexuelle et l'hygiène de l'enfant? Étant donné que dans la région de l'extrême nord, nous savons que c'est un sujet qui reste encore tabou.
Pour une bonne éducation des enfants en famille, les deux parents ont les mêmes responsabilités. C'est vrai que dans la réalité, on trouve souvent les mamans en train de s'occuper, pour la majeure partie des cas, peut-être à 80 ou à 90%. Dans certaines mêmes familles, même à 95%, on trouve que ce sont des mères qui éduquent les enfants alors que les deux parents sont présents. Mais il est conseillé pour les parents de pouvoir partager des responsabilités et à chaque fois de se soutenir même dans l'éducation des enfants en famille. Et pour l'éducation sexuelle, dans la société africaine, on a tendance à vouloir que la maman puisse transmettre certaines valeurs sur le plan sexuel à la fille et le papa puisse également et se charger de l'éducation du garçon. Mais il n'est pas exclu que le papa puisse également s'adresser à la fille. Il n'est noté nulle part que le papa ne peut pas s'adresser à la fille. Et si les parents ont des éléments, parce qu'il peut aussi arriver qu'il y ait des parents qui ont bien la bonne volonté de pouvoir orienter ou apporter des conseils à leur enfant sur le plan de la sexualité, mais n'ont pas des éléments appropriés. Et là, le parent qui a plus des éléments, et ça peut être le papa, il peut assurer ce rôle en pouvant apporter des éléments d'éducation sur le plan sexuel à sa fille et au garçon, et sans qu'il y ait un souci. Donc, la responsabilité d'éducation sexuelle incombe aux deux parents.
Vous vous êtes attardé plus sur l'aspect sexuel. Qu'en est-il de l'aspect hygiène?
Oui, mais c'est parce que dans un premier temps, quand on a parlé de l'éducation en famille, on s'est dit que l'éducation en famille, c'est pas seulement des respects, des civilités et tout, ça concerne tout au sein de la maison, et que ce soit l'assainissement, le balayage de la maison, l'entretien de tout le matériel en famille, et se laver, et faire le suivi de ses frères, et tout ça incombe aux deux parents.
Parlant de l'hygiène sexuelle, comment les parents peuvent-ils faire pour mettre sur pied une stratégie de communication pour dialoguer avec leurs enfants?
C'est vrai, dans notre contexte, tout ce qui concerne le sexe est tabou. Et c'est pourquoi, si on attend que l'enfant puisse être adolescent pour pouvoir commencer à vouloir créer le lien. Beaucoup de parents ont des difficultés à pouvoir et commencer même et créer ce lien. Et d'autres font même appel à d'autres personnes pour pouvoir entrer en contact avec leurs enfants. Mais ce que nous pouvons peut-être recommander aux parents, c'est de commencer déjà à dialoguer avec à communiquer, à dialoguer avec l'enfant dès le bas âge. Bon, maintenant, si la phase est passée, de voir, parce que chaque enfant devrait savoir quelles sont les stratégies qu'il peut mettre en place pour pouvoir entrer en contact avec son enfant. Si le parent n'arrive pas, c'est qu'il a raté quelque part et c'est que lui-même, il doit déjà comprendre que c'est un blocage et savoir comment faire pour trouver des solutions. Parce que de façon générale, il y a certains parents qui voient que ah, c'est passé. Si je n'arrive pas à entrer en contact avec lui, et c'est rien, je veux passer, c'est tout. Mais il n'y a pas une stratégie standard parce que chaque personne est différente. Même les jumeaux, on peut avoir deux enfants, mais chacun puisse percevoir soit certains aspects de sa façon. On peut avoir des jumeaux, l'autre communique mieux, l'autre ne communique pas du tout et tout. Donc, une solution miracle pour entrer en contact avec les enfants, il n'y en a pas. Mais peut-être on peut seulement demander aux parents de faire des efforts à leur niveau. Parce que le problème, c'est souvent que parfois certains parents baissent des bras. Et ou bien certains parents ne voient pas l'importance. C'est quand c'est déjà grave qu'ils voient déjà comment ils peuvent déjà... C'est là où ils commencent à se plaindre et disent qu'ils ont tout fait. Mais c'est déjà très difficile pour nous parents, avec tout ce que nous avons comme mondialisation, avec tout ce qui entre maintenant en contact avec les enfants, tout ce qui permet d'entrer en contact avec les enfants, que ce soit les réseaux sociaux, la télévision et tout. Nous avons notre rôle à jouer pour pouvoir assurer l'éducation de nos enfants. Sur le plan sexuel, il faut que nous-mêmes nous soyons d'abord convaincus et avoir des éléments. Parce que si nous les parents, parce que quand on regarde et les filles qui partent en mariage tôt, elles-mêmes, elles n'ont pas connu ce que c'est que la menstruation. Elles voient la menstruation, mais elles ne savent même pas d'où sort le sang que les femmes voient tous les mois. Et celui qui l'épouse, lui aussi, peut-être, il n'a aucune connaissance dans ce domaine. Et là, il leur revient de reconnaître qu'ils n'ont pas d'éléments et peut-être se rapprocher des gens qui connaissent, parce qu'il y a toujours aux alentours de nous des personnes qui ont plus d'éléments, et se rassurer, donc, entrer nous-mêmes nous éduquer par rapport à certains aspects et voir maintenant comment est-ce que nous pouvons créer la relation avec notre enfant et voir comment est-ce que nous pouvons passer le message. Parce qu'il y a certains aspects. Parce que quand on parle de l'éducation sexuelle, beaucoup de gens pensent seulement aux filles. Alors que les garçons ont également, ils doivent également bénéficier de l'éducation sexuelle. Parce qu'on doit dire aux garçons à un certain âge, voilà certains signes. Parce que les garçons voient aussi des certains signes. À un certain âge, il y a des érections matinales. Et il y a tout ça là. Le garçon doit aussi comprendre. Et avec tout son corps qui se développe, il faut que le garçon puisse comprendre qu'il y a des caractères sexuels secondaires qui apparaissent. C'est tout à fait normal parce que comme il grandit, il y aura tout ça là qui va apparaître. Mais ça ne veut pas dire qu'il doit déjà avoir une activité sexuelle. Parce qu'avec les autres camarades, vous ne savez pas, on va lui dire non, voilà, tu es déjà un garçon, tu as les poils sur le pubis, non, tu es déjà un homme, tu peux déjà avoir des rapports sexuels et tout. Beaucoup de garçons se lancent dans la vie, l'activité sexuelle, sans même connaître. Et là, s'ils trouvent quelqu'un de plus âgé, et là, il va se lancer dans la vie sexuelle, avoir des enfants un peu partout, choper une maladie sexuellement transmissible, et sans qu'il ne sache, et là, parce qu'il n'a pas reçu une éducation. C'est la même chose avec la fille. Il faut qu'elle puisse comprendre. À un certain âge, tu pourras avoir les règles. Et pour avoir les règles, voilà comment est-ce que on utilise des garnitures. Voilà comment est-ce qu'on peut les laver pour les garnitures lavables. Voilà comment est-ce qu'on peut traiter notre garniture pour les garnitures jetables. Et en plus, il y a des périodes où il y a l'ovulation, ça fait mal et tout. Il y a tous ces éléments qui entrent dans l'éducation sexuelle de la fille. Donc, il est important pour les deux parents, de se mettre ensemble, de se questionner, de se questionner si eux, ils ont des éléments. Dans le cas où ils n'ont pas d'éléments, de pouvoir chercher une personne ressource qui peut les aider pour avoir ces éléments et pouvoir transmettre, éduquer leur enfant sur le plan sexuel.
Et pour renforcer cette stratégie de communication entre parents et enfants, est-ce qu'il ne serait pas préférable que, à un certain âge, que ce soit la maman qui puisse parler à sa fille et le papa puisse parler à son fils aussi?
C'est pourquoi j'ai beaucoup insisté sur la responsabilité commune. J'ai beaucoup insisté pour que le papa joue sa partition, la maman joue sa partition. Et ça va changer d'un enfant à un autre, comme je disais. Et c'est souvent plus facile pour l'homme, au père, de pouvoir s'adresser à son fils parce que c'est du vécu. Donc, il parle en expérience. Au moins, il sait ce que c'est quand il en parle. Bon, également pour la maman, elle aussi, c'est du vécu. Elle sait de quoi elle parle. Et quand elle parle même, elle peut dire que certains ont les règles douloureuses et tout, parce qu'elle sait que non, ça fait mal et tout. Donc, au moins, elle sait ce que c'est. Mais comme je disais, il peut arriver que la maman élève son enfant seule. Et là, il y a certains enfants, et comme l'adolescence, c'est une étape de perturbation, une étape très difficile, il y a certains garçons. Moi, j'ai trouvé certains garçons qui sollicitaient un appui d'une tante, des femmes, pour certains aspects concernant la sexualité. Donc, c'est pourquoi je disais qu'il n'y a pas, une solution phare. Donc, il faut comprendre l'enfant, il faut être proche de l'enfant, entrer en communication avec lui. Ça nous permet à nos parents de savoir qu'on peut lui apporter tel élément. Il peut même arriver que les deux parents ne peuvent même pas apporter des éléments. Il leur revient donc quand ils sont à l'écoute, quand ils savent que c'est leur responsabilité, c'est à eux maintenant de voir que nous, on ne peut pas. Parce que la façon dont ce garçon ou cette fille se comporte, nous, on ne peut pas lui apporter des éléments. Mais dans notre famille, on a une tata qui est écoutée par cet enfant et la tata peut réagir ou le tonton peut réagir. Ou pourquoi pas, ça peut être également, on reçoit régulièrement des parents qui viennent ici pour dire que franchement, et voilà, je traverse une période avec mon fils. Est-ce que vous pouvez avoir le temps, parce que je lui ai demandé, il a accepté. Est-ce que vous pouvez entrer en communication avec lui pour lui apporter certains éléments, certaines réponses par rapport à certaines situations? Mais quand le parent est conscient, lui, il peut reconnaître qu'il est défaillant, pas seulement défaillant sur le plan des éléments, comme je disais, mais défaillant aussi parce que avec la situation de cet enfant, c'est pas lui. Il a reconnu que c'est pas lui qui peut apporter la réponse. Comme ça, il cherche dans l'entourage, et ce que nous appelons ici à le départ, personne influente. Il cherche dans son entourage quelle est la personne influente qui peut aider son enfant. Et là, ce parent-là, c'est un parent responsable. C'est un parent qui comprend que non, il y a un problème, mais avec le comportement de mon enfant, ce n'est pas moi qui peux. Parce qu'à un certain âge, certains enfants voient tout ce que le parent dit est mauvais. Et là, ça s'explique. Ça s'explique. Dans le développement de l'enfant, parce que c'est surtout l'aspect de l'adolescence. Parce qu'à l'âge adolescent, parfois, tout ce que le parent dit est mauvais. Et là, on fait tout pour pouvoir surmonter, violer les règles familiales et tout. Donc, il revient aux parents de pouvoir solliciter de l'aide. Ce n'est pas exclu. Qu'il sollicite, un parent responsable peut solliciter de l'aide, que ce soit d'un éducateur spécialisé, que ce soit d'une assistante sociale, que ce soit d'un tonton ou une tata dans la famille, parce qu'eux aussi peuvent jouer ce rôle.
Et dans le cas où les deux parents sont divorcés?
Bon, c'est pourquoi le divorce doit s'accompagner de... Quand il y a divorce, quand nous parlons de divorce, ça veut dire que ces deux étaient mariés légalement et ils sont passés au tribunal. Et c'est le tribunal qui a statué qu'ils doivent divorcer. Et dans le cas des divorces, il y a des étapes. Le législateur prend des dispositions. Donc, ce n'est pas parce que vous avez des problèmes que directement quand vous allez au tribunal, on vous dit que vous avez divorcé. Non. Parce que le législateur a pu mettre certaines dispositions. Il y a certaines dispositions, on vous demande d'abord, on voit la possibilité de vous mettre ensemble, surtout quand vous avez des enfants, de vous mettre ensemble. Est-ce que c'est quand il y a impossibilité que vous puissiez mener une vie ensemble qu'on parle de séparation de corps? Et là, et les deux parents sont d'abord séparés et ce n'est pas le divorce. Le divorce n'est pas prononcé. Et cette séparation également où les deux conjoints, chacun est de son côté, on voit les aspects concernant les enfants. Qui peut assurer la garde de l'enfant? Et c'est pourquoi il y a ce que le juge commet souvent, comme on parle de commission rogatoire, où il y a une enquête sociale qui est menée pour savoir des deux parents, quel est le parent? L'idéal serait qu'ils soient ensemble, mais maintenant, les circonstances ne permettent pas qu'ils soient encore ensemble. Mais quel est le parent qui peut assurer la garde, mais permettre aussi que l'autre parent vienne pour assurer, pour pouvoir jouer sa partition? Et là, même le tribunal peut aussi décider que la maman ne vienne même pas voir les enfants s'il constate que la maman représente un danger, parce que là, c'est l'intérêt supérieur de l'enfant qui est pris en compte. Donc, en donnant la garde des enfants à un des conjoints, on se rassure que le déséquilibre psychologique de l'enfant ne soit pas atteint. Donc, il revient donc à tous ces spécialistes, les affaires sociales qui sont auprès du tribunal, de montrer quels sont les éléments à qui on peut remettre les enfants pour qu'il y ait un semblant d'équilibre psychologique et pouvoir permettre le développement harmonieux et paisible des enfants. Et il est recommandé que tous les deux parents, quelle que soit la situation, puissent travailler pour que les deux assurent leur responsabilité vis-à-vis de leur enfant. Mais maintenant, dans la réalité, c'est tout autre chose, parce qu'il y a des gens qui ont leur orgueil, certains égaux, on veut montrer que c'est moi qui ai le chef, c'est moi qui avais la chance, c'est moi qui était tel, c'est moi qui suis qui, c'est moi ceci. Et là, on n'arrive plus à voir ce qui est le plus important, nos enfants, leur avenir et leur éducation.
À vous entendre, l'idéal serait que les deux parents vivent ensemble pour la bonne éducation de leur enfant.
Pas ensemble, parce qu'ensemble, là, c'est comme si on veut les obliger à pouvoir vivre ensemble. Non, que les parents, chacun, assure l'éducation de ses enfants et qu'il garde cette harmonie pour le bien de l'enfant. Donc, même si le parent est à Palar et la maman vit avec les enfants à Pitoiré, de temps en temps, qu'il faut qu'au moins qu'ils s'entendent, qu'ils dialoguent, qu'ils communiquent pour l'éducation de leurs enfants. Il faut de leurs enfants, s'ils en ont plusieurs, il faut qu'ils communiquent, il faut qu'ils s'entendent. Ça veut dire, si moi j'ai puni l'enfant, quand tu viens, tu te rassures que la punition que j'ai donnée, c'était par rapport à toi. Et tu montres à l'enfant que la punition que la maman t'a donnée, c'est parce que tu as fait telle, parce que tu as fait telle, parce que tu as fait telle. Je suis d'accord avec la punition. Même si après, tu vas lui dire que ne punis plus mon enfant de cette façon, cette punition-là est très exagérée, et si cela se... En se rassurant également que la punition que la maman a donnée, c'est une punition qui respecte sa dignité, c'est une punition qui ne va pas causer une violence sur cet enfant et tout. Donc il faut qu'ils s'entendent et à chaque fois que l'enfant a des soucis, qu'ils puissent au moins communiquer pour le bien de l'enfant.
Karine Gore, Pepga, c'était un plaisir de vous avoir dans notre studio.
C'est moi qui vous remercie.
Chers éditeurs, Miroir de la Cité rentre en gare. Nous avons réfléchi sur la question de la responsabilité parentale qui, lorsqu'elle n'est pas bien assurée, conduit de nombreux jeunes dans les dérives, entraînant leur déperdition et quelquefois leur mort. Pour mieux nous édifier, nous avons reçu dans ce studio Karine Gore Pepga, assistante principale des affaires sociales. Cette édition a été réalisée avec le concours de Maxime, qui a assuré à la technique. Restez scotché au programme de Radio Série. D'ici là, portez-vous bien.